Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour parler du Second Empire. Ça sera la dernière partie. Ça a été très long, mais le Second Empire a été une époque très intéressante. On l'a vu au travers de ce que nous a dit René-Joseph Firmana, que l'on va retrouver tout de suite, justement. Donc, pour nous parler du Second Empire, ça sera notre dernière partie. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la chute du Second Empire. Nous avons évoqué dans les précédentes émissions donc le cadre du Second Empire, les personnages autour de Napoléon III, hein, le neveu donc du grand Napoléon Ier. Et puis, nous avons parlé aussi des ces expéditions étrangères, hein, des guerres, et notamment la guerre d'Italie, hein, le soutien apporté par Napoléon III au mouvement d'unification et d'indépendance, hein, italienne, puisque l'Italie était sous la botte autrichienne. Voilà. Et puis, là, je parlais également dans la dernière émission de la société du Second Empire, avec son boom économique, commercial, et avec certains exemples comme les frères Lapeyre, qui étaient des banquiers qui ont instauré la banque moderne, on va dire. Et puis, le grand commerce, l'apparition des supermarchés, là aussi moderne, avec Boussicot, etc. Donc, je vous parle aujourd'hui de la chute en 1870 de cette période du régime qui a duré de 1850 malgré tout, plus exactement du 2 décembre 1851 précisément, donc du 1852 à 1870, et là nous sommes donc à 1870, la chute va s'avérer rapide et surprendre un peu, on va dire, le monde, hein, et l'Europe de l'époque. Et donc, l'élément déclencheur, c'est cette fameuse dépêche d'Ems, EMS. C'est une ville d'eau, une ville de cure en Allemagne. Alors, d'abord, il faut préciser que, à ce moment-là, à ce moment-T, le Second Empire, encore une fois, est au sommet de sa puissance. Depuis 1860, il a amorcé un tournant libéral. Antérieurement, c'était un régime autoritaire. On pourrait presque dire une quasi-dictature, comme d'ailleurs Napoléon Ier. Hein. Et puis, il y a eu des mesures de libéralisation du régime, enfin la presse, le droit de réunion, etc. Et notamment, en mai 1870, un plébiscite, c'était le système des plébiscites, donc où le peuple est appelé à voter sur une mesure, c'est les ancêtres des référendums modernes, donc qui approuva le 8 mai 1870 un senatus consulte, donc une loi du 20 juin 1870, donc qui améliorait les pouvoirs du Sénat, hein, qui lui donnait le pouvoir constituant, etc. Bon, on n'y revient pas. Donc on est en pleine prospérité. Et puis se déroule, je répète, un incident diplomatique qui va être amené, on va dire, comme suit. Alors il faut savoir que, préalablement, on avait parlé de Cavour, hein, qui avait fait l'unification italienne. Eh bien, il y a un Cavour allemand, ou un Cavour prussien, c'est Bismarck, qui est aux ordres de Guillaume, du roi Guillaume, grand de Prusse à l'époque, et qui va devenir Guillaume Ier, empereur d'Allemagne. Et donc, Bismarck, comme Cavour, veut faire l'unification allemande, qui est, on le sait, faite de principautés de royaumes indépendants, la Bavière, la Saxe, etc. Donc, Bismarck veut unir l'Allemagne, c'est son grand rêve, et il va le réaliser, comme Cavour l'a fait d'ailleurs, et pour cela, son moyen, c'est de fomenter une guerre. Hein, voilà. Il veut provoquer une guerre pour unir les principautés et royaumes allemands autour de la Prusse. Voilà. Développer, créer un sentiment national. Et il va trouver un prétexte. Il cherche tous les prétextes. On parle d'un chiffon rouge qui l'agite. Et en fait, c'est la France, le Second Empire, c'est le vieil adversaire, on va dire, qui est privilégié pour cette guerre, pour jouer ce rôle de taureau qui va foncer dans le chiffon rouge. Et donc, l'affaire, ce sera l'affaire d'Espagne qui va provoquer les événements. À savoir que l'Espagne, eh bien, en 1870, début 1870, son trône est vacant. Enfin, d'ailleurs, depuis octobre 1868, on a évoqué un peu cet épisode dans notre émission sur la Légion étrangère. Il y a eu des guerres civiles. Une guerre civile en Espagne entre les carlistes et les isabellistes, c'est-à-dire entre l'oncle et la nièce qui régnait, c'est-à-dire Isabelle II qui avait été désignée par son père, voilà, qui avait écarté cette fameuse loi salique. On a beaucoup parlé, qui permettait à une, qui a, par, en écartant cette loi dite salique, Isabelle II a pu régner en tant que fille, mais l'oncle Charles, contestait, et donc il y a eu ces guerres dans lesquelles avait été engagée la première légion étrangère. Bon, mais Isabelle sera détrônée. C'est pas une très bonne reine, il faut le dire. Elle a beaucoup d'amants, enfin bon, peu importe, et elle. Elle est d'ailleurs la grand-mère d'Alphonse XIII. Elle a eu une ribambelle d'enfants de ses divers amants. Et elle était la grand-mère d'Alphonse XIII. Et Alphonse XIII, qui a abdiqué en 1900, je crois vers 1930, juste avant le Front Populaire espagnol, eh bien, et la grand-mère, donc j'ai dit Alphonse XIII est le grand-père de Juan Carlos. Hein, voilà. Mais ses enfants, qui étaient adultérins, si on peut dire, étaient tout à fait légitimes, regarde la succession à la couronne. Ouais, puisque c'était la reine qui était reine régnante et son époux le prince consort, voilà, l'époux cocu, quoi, on va dire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc le trône, elle est renversée par un coup d'état militaire et c'est exilée en France où elle finira sa vie. Et donc le maréchal Prime, qui assure la régence, cherche, il fait le chasseur de tête pour trouver un successeur. Il cherche un candidat pour, on va dire, ceindre la couronne d'Espagne. Et donc, après plusieurs échecs, eh bien, son attention se porte sur Léopold, le prince allemand, donc, prince prussien, Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, qui est d'ailleurs le propre neveu de Guillaume. Guillaume qu'on appelle premier, mais qui à l'époque doit être, à mon sens, Guillaume IV, Guillaume IV de Prusse, et qui deviendra Guillaume Ier d'Allemagne, l'Allemagne unie. Et donc, au départ, il y a des hésitations. Bismarck, là, qui cherche, on le sait, il guette toutes les possibles pour provoquer cette guerre, donc notamment contre la France. Et donc Bismarck est favorable, et il flaire déjà. Il flaire déjà l'incident qu'il va provoquer. Parce que se passe-t-il si un prince allemand, donc à l'époque prussien, tel que Léopold s'installe sur le trône d'Espagne, eh bien la France est entourée, elle est cernée au nord-est par bien sûr la Prusse et puis tout l'ensemble allemand, et au sud par l'Espagne, qui deviendrait donc aussi prussienne en quelque sorte. Et donc c'est inacceptable à l'évidence pour la France, et Bismarck donc le sait. Donc il est favorable au départ. Donc des rencontres secrètes se déroulent à Berlin, on n'ébruite pas encore la chose, et toutefois Benedetti, notre ambassadeur de France à Berlin, signale à son ministre des Affaires étrangères, Gramont, signale ses faits, il est au courant. C'est un homme très fin et qui jusqu'au bout voudra sauver la paix, mais hélas, il ne sera pas écouté, quoi. Il devra s'incliner devant le bellicisme, notamment de son ministre Gramont des Affaires étrangères, voilà. Et puis de l'impératrice, il faut bien le dire, l'épouse de Napoléon III, qui va faire jouer toute son influence pour la guerre. Mais on n'est pas encore là. Donc il y aura ce risque d'encerclement pour la France, qui fait que cette candidature est fortement, désagréable et malvenue pour Napoléon III. Donc le 15 mars 1870, conseil de famille, Guillaume, Bismarck, Léopold, et puis le père de Léopold, c'est un jeune homme, hein, donc Antoine, et von Rohn, ministre des Affaires étrangères, ou plutôt ministre de la guerre, et von Moltke, chef d'état-major prussien. Donc on voit bien qu'il y a que les militaires, ils sont, c'est un conseil privé de famille. Et là, Léopold hésite, oui, il n'est pas... Il n'est pas fou d'ambition, ça n'intéresse pas outre mesure ce trône d'Espagne. Et finalement, il se laisse convaincre après beaucoup d'hésitations, et donc il donne son accord le 4 avril 1870. Et donc, la nouvelle va être rendue publique le 2 juillet 1870, donc par le gouvernement espagnol, lui-même par prime, qui va prévenir l'ambassadeur de France, Mercier de l'Ostende, de cette nouvelle, en lui disant qu'on n'attend plus que le vote des Cortes, du Parlement espagnol. Et donc, la nouvelle est également publiée, rendue publique par l'agent Savas, et publiée notamment dans la Gazette de France. Alors là, à Paris, c'est la stupeur. C'est l'opinion publique qui va se mobiliser. On sait que l'opinion publique va être très importante dans le déclenchement de la guerre de 1870. Le peuple est exalté, et notamment exalté par une campagne de presse qui mobilise cette opinion publique. Voilà. On ne veut pas voir, en somme, les Prussiens à Madrid. Ils sont déjà à Berlin, et ça suffit. Et donc, il y a ce cocorico qui fait que, on n'en veut pas. On ne veut pas de cet encerclement. Et donc, le mouvement diplomatique se poursuit. Donc, il y a... en France, une réaction qui fait que, on va demander à Guillaume II de contraindre son neveu Léopold à renoncer au trône d'Espagne. Donc, Gramont donne ses instructions par télégramme donc à l'ambassadeur Benedetti, notre ambassadeur, de rencontrer Guillaume II avec une mission d'obtenir le désistement. Et donc, Benedetti se fait son œuvre, il est un bon ambassadeur. Le 9 juillet 1870, il rencontre Guillaume, le Kaiser, celui qu'on appellera le Kaiser, mais qui n'est qu'actuellement que roi de Prusse, à dîner. Et donc Guillaume, lui, se rétracte un peu, il botte un peu en touche, il déclare qu'il n'a agi en la matière que comme chef de famille, donc de façon privée, et pas comme chef d'État. Néanmoins, il s'engage à parler à Léopold, parce que Guillaume, c'est un empereur d'un certain... Il a 72 ans, il n'est pas non plus belliqueux, C'est Bismarck, on le veut, qui veut sa guerre. Guillaume, lui, plutôt pacifiste. Donc il va parler à Léopold, mais parallèlement, Paris est quasiment en folie, ça paraît. Paris est déchaîné, et même l'armée aussi, etc. En fait, je veux dire que Paris est déchaîné, mais on ne sait pas, à Paris, il y a des mauvaises appréciations de la situation, car l'armée française n'est pas prête au combat. Il est inférieur, très inférieur à l'armée prussienne, voire à l'armée, allemande. Et puis la France est isolée diplomatiquement. Et dans cette folie belliqueuse, un homme est sage, lucide, c'est Monsieur Thiers. Monsieur Thiers sait que la France, il sait que la guerre est inévitable, probablement avec la Prusse, notamment avec l'Allemagne, mais il sait aussi que la France n'est pas prête. Aussi bien les effectifs militaires qui sont inférieurs, on va voir les chiffres à peu près, quoi. Et puis l'armement non plus n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc on est dans ces négociations là, et on va faire cette pression pour que la candidature de Léopold soit retirée. Voilà, je donne quelques chiffres. On a 250 000 hommes à l'époque, et donc c'est très inférieur aux chiffres allemands, qui sont au moins deux fois plus, quoi, etc. Et puis on a juste un fusil, M. André Chassepol, qui est performant, mais notre armement est très inférieur, il n'est pas à la hauteur, voilà. Mais on y reviendra après, on en est à la phase diplomatique. Donc nous allons faire une petite pause musicale, et puis on verra comment va se dérouler ces pourparlers diplomatiques, et comment la guerre va survenir de façon tout à fait, bizarre, incongrue et même absurde. Nous nous retrouvons après l'intermède musical.